Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, merci Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Deuxième temps de notre semaine que nous consacrons à la fabrique des campagnes électorales. Hier, c'était la question du bilan qui nous occupait. On s'était intéressé précisément à l'Inde. Aujourd'hui, seconde étape de la compétition et direction l'Afrique de Dakar à Abuja. Discréditer ses opposants, sélectionner ses rivaux. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Mes chers amis, je vous réitère tous mes remerciements pour la confiance que vous avez placée en moi. Pour porter notre message, nos valeurs et nos couleurs à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019.
Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, nous avons décidé de nous opposer à la tenue d'une élection qui est entièrement fabriquée dans le seul but de réélire le candidat sortant, en l'espèce, M. Macky Sall.
Au Sénégal, l'élection présidentielle à la fin du mois s'annonce compliquée, avec un président en exercice, Macky Sall, qui voudrait bien être reconduit, mais qui voit son prédécesseur, Abdoulaye Wade, se lancer dans une grande campagne visant à empêcher la tenue du scrutin, considérant que les rivaux, les opposants, ont été injustement écartés. Sénégal, Nigeria, une démocratie souvent prise comme modèle en Afrique occidentale d'un côté, le pays le plus peuplé du continent de l'autre, deux pays plongés en pleine campagne électorale aujourd'hui. En effet, les électeurs nigérians se rendront aux urnes dans quelques jours, le 16 février, pour des élections générales qui renouvelleront ou non le chef de l'État et l'Assemblée nationale, tandis qu'au Sénégal, le scrutin présidentiel se déroulera peu de temps après, ce sera le 24 février. Dans les deux cas, un président sortant qui brigue un nouveau mandat, et qui n'hésite pas à organiser au mieux la concurrence pour maximiser ses chances de réélection. Alors quels sont les outils des dirigeants pour fausser la compétition et rassembler les conditions de leur reconduction? Comment les challengers organisent-ils la riposte? Et surtout, les opinions publiques sauront-elles résister à ces manœuvres? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Vincent Fouché, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, chargé de recherche au CNRS. Francis Patinbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et maître de conférence à Sciences Po. Alors, hier soir, les responsables sénégalais appelaient au calme après la mort d'un homme dans des heurts entre les partisans et les opposants du président sortant. Le Sénégal est plutôt considéré, je le disais, comme un modèle de démocratie dans la région, un des rares pays où l'alternance existe, 2000-2012, où les coups d'État ne sont pas la règle. Vincent Fouché, comment comprendre ces violences? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement? Et est-ce que ces violences vous paraissent symptomatiques d'une vie politique sénégalaise qui peut-être serait en train de se transformer, de se radicaliser, de se polariser?
Il ne faut pas s'inquiéter, le Sénégal a une tradition de violence politique diffuse. En 2012, hein, l'élection qui avait amené Macky Sall au pouvoir, il y avait eu au moins 6 morts, hein, aux différents moments de la campagne et de la pré-campagne. Les élections, c'est un moment où les clients politiques, les clients des hommes politiques, peuvent montrer leur engagement, hein, rivalisent pour montrer leur engagement auprès de leur leader. Et donc, c'est vrai que régulièrement, ça entraîne des incidents ici et là.
Francis Patinbé, ce sont des heurts qui ont eu lieu entre les partisans de la coalition au pouvoir, Beno Bok Yakar, Ensemble pour le même espoir, c'est ça que ça veut dire en Wolof, et ce Dissa Sall, qui est le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, qui est un proche d'une mouvance religieuse. Ça, c'est une nouveauté, en revanche, Francis Patinbé, l'apparition d'un candidat aussi ouvertement confessionnalisé.
Oui, mais enfin, disons, le facteur religieux a toujours beaucoup joué au Sénégal. On se souvient des Ndigal, des consignes de vote des marabouts, des chefs religieux, surtout de la confrérie des Mourides, qui est la plus influente, pas la plus importante, mais c'est la plus influente du Sénégal. De tradition, il y a eu ça, mais depuis 2000, il n'y a plus de consignes de vote émanant des chefs religieux. Mais le facteur religieux compte toujours beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que entre 90 et 99% de la population est musulmane au Sénégal. Donc, c'est un facteur qui compte beaucoup.
Vincent Fouché, vous me faisiez nom de la main. C'est pas vraiment une nouveauté.
Alors, la Constitution interdit les partis formés sur une base ethnique ou religieuse, mais il y a depuis un certain temps, et en fait, d'une certaine manière, depuis que le Ndigal, depuis que cette parole des grands marabouts se fait silencieuse, il y a toute une série de leaders religieux, généralement pas liés aux confréries soufis, prennent la parole, qui candidatent, qui créent des partis. Alors, ils n'assument pas, ils ne mettent pas le nom islam dans le titre de leur parti, mais ce sont des leaders religieux. L'imam Baïnian, par exemple, un imam, était un des candidats significatifs en 2012.
Francis Patinbé, donc je le disais, au Sénégal, la campagne a commencé, c'était le 3 février dernier, un scrutin qui se tiendra le 24 février. Le président Macky Sall est candidat à sa réélection et, pour rappeler qu'à la précédente élection, Macky Sall l'avait emporté face au président sortant Abdoulaye Wade, qui s'était présenté, lui, à un troisième mandat grâce à l'aval du Conseil constitutionnel, malgré les grandes oppositions qu'il y avait eu à l'époque. Et il se trouve que l'ancien président Wade semble déterminé à continuer à jouer un rôle dans cette campagne, puisque après avoir fait son grand retour après quasiment 2 ans d'exil, voilà qu'il appelle tout simplement à la suspension du scrutin. Pourquoi Abdoulaye Wade, qu'on appelle le vieux là-bas, Gorgui au Sénégal, refuse la tenue de ce scrutin?
Pour plusieurs raisons. Il se trouve que j'ai vu le président Wade lors de son escale à Paris samedi dernier. J'ai été le voir à Versailles, où il était. Et en fait, il est...
Où il a appelé au boycott, et c'est justement l'extrait de ce discours qu'on a entendu au début de l'émission.
Oui, il a enregistré donc à son domicile cette vidéo, avant de prendre son avion pour Dakar. Ce qu'il veut, c'est qu'il estime que cette élection est injuste. Son fils, mais pas que lui, et le maire, l'ancien maire de Dakar. Donc les deux ont été écartés du scrutin. Vous savez, on est quand même passé d'une quinzaine de candidats, disons 14 candidats la dernière fois, à 5 candidats aujourd'hui. Et il n'y a pas de grosse pointure parmi les 4 adversaires du président Macky Sall. Donc il estime que il est temps encore peut-être de discuter, parce que les cours, les tribunaux sénégalais, le Conseil constitutionnel a donné la liste définitive. Le jeu est joué, mais il estime qu'il faut suspendre, entamer des négociations et réintroduire dans le jeu politique son fils Karim Wade, qui se trouve prépositionné à Doha et qui attend à Doha de pouvoir rentrer au Sénégal. Et de faire sortir de prison éventuellement l'ancien maire de Dakar pour qu'il soit candidat.
Vincent Fouché, est-ce que c'est justifié? Parce que il a raison, Francis Patinbé, de préciser qu'il y a aujourd'hui seulement 5 candidats. C'est l'élection avec le moins de candidats depuis 30 ans. Le 20 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé beaucoup de candidatures de l'opposition, et notamment celle de Karim Wade, donc le fils de l'ancien président, mais aussi Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Pourquoi autant de candidats écartés? Et est-ce qu'on peut soupçonner l'actuel régime d'avoir essayé, au fond, de disqualifier des candidats qui pouvaient empêcher, justement, le maintien de Macky Sall?
Alors, ça n'est pas impossible. Maintenant, Macky Sall, il est quand même plutôt en position de force pour cette élection. D'abord, il est un candidat, constitutionnellement correct. C'est seulement son deuxième mandat, sa deuxième tentative de mandat. Donc, il a le droit de le faire, contrairement à Abdoulaye Wade en 2012, lorsqu'il essayait de se présenter pour un troisième mandat. Par ailleurs, son bilan économique et social n'est pas mauvais. Le Sénégal a la croissance. Enfin, voilà, il est quand même plutôt bien placé.
Seulement 5 candidats, quand même. J'entends ce que vous dites, plutôt un bon bilan. Du point de vue de la Constitution, une reconduction éventuelle absolument inattaquable. Mais quand même, 5 candidats, seulement 5.
Alors, bon, le Sénégal a une tradition, et notamment l'élection de 2012 qui avait amené Macky Sall au pouvoir, avait vu un florilège de candidats que Macky Sall avait dû rallier à lui au deuxième tour. Et je me demande si, dans le calcul de Macky Sall, il n'y a pas quelque chose d'un souvenir de 2012 et du coût que ça représente en termes de contrôle sur l'appareil d'État, sur le dispositif de gouvernement, de passer toutes ces alliances avec ces petits candidats isolés là qui ont 1%, etc. Il me semble qu'il y a une volonté peut-être de son côté de rafler un peu, de mettre à l'écart tous ces gens-là, aussi d'éviter la possibilité qu'un opposant puisse faire cette coalition à son profit. Et c'est vrai que cette image de tous les candidats unis, tous les candidats d'opposition unis autour d'un seul homme pour lutter contre le président sortant. C'est une image puissante, c'était une image qui avait compté dans la victoire de Macky Sall en 2012.
Francis Patinbé, on va voir après si un front anti-Macky Sall pourrait malgré tout émerger avec les 4 candidats, les autres 4 candidats, mais d'abord...
Le fait est que Vincent Fouché a raison, mais il y a de plus en plus de pays africains où la justice et l'administration fiscale sont instrumentalisées pour écarter des opposants du scrutin présidentiel.
C'est le cas au Sénégal ?
C'est le cas au Sénégal. Disons que bon, l'histoire de Khalifa Sall est un peu tirée par les cheveux.
Vous nous rappelez ce qu'on lui reproche, que la justice
lui reproche d'avoir utilisé des fonds mis à sa disposition sans justifier l'utilisation de ces fonds-là. Vous savez qu'au Sénégal, comment ça se passe ? Vous avez beaucoup de gens qui viennent demander de l'argent, de l'aide pour un baptême, pour un décès, etc. L'argent servait à cela. Et donc, on le sait. Mais aujourd'hui, en Afrique, et pas qu'au Sénégal, au Bénin ou ailleurs, on utilise l'administration fiscale parce qu'on oublie toujours une année de payer les impôts. Donc, le pouvoir se rappelle à votre bon souvenir, dire ben, vous n'aviez pas payé vos impôts telle année, donc vous vous retrouvez en prison pour ça.
Vincent Fouché, si on revient sur l'appel au boycott d'Abdoulaye Wade, parce qu'en première intention, on pourrait se dire que finalement, ça pourrait favoriser Macky Sall, puisque si les gens ne vont pas voter, ceux en revanche qui soutiennent Macky Sall iront bien voter. Donc, a priori, en première intention, on dit que cet appel au boycott de Wade, il est plutôt favorable à Macky Sall. Tactiquement, je ne sais pas si c'est politiquement très pertinent. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah bah, certains des candidats ont dit qu'au contraire, il fallait absolument aller voter. Et ils espèrent, ils ont essayé d'approcher Wade pour essayer de le faire changer de position. On verra ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette manière d'utiliser de plus en plus le droit ou effectivement les questions fiscales, hein, questions constitutionnelles ou fiscales, une sorte d'hommage du vice à la vertu. Des présidents un peu inquiets au fond des sorties qui ne peuvent plus décider depuis le ministère de l'Intérieur de publier les résultats qu'ils veulent et qui sont obligés d'être plus créatifs. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a une prolifération comme ça de manœuvres, de différentes pistes au fond utilisables pour essayer de se donner un avantage. Mon sentiment, c'est que Macky Sall n'avait peut-être pas vraiment besoin de ça et qu'au fond... vous m'excuserez l'anglicisme, mais on est plutôt dans l'overkill. Hein. On est dans une sorte d'excès de force, d'excès de pression.
Mais est-ce que Khalifa Sall, donc l'ancien maire de Dakar qui a été écarté, est-ce qu'il a fait l'objet d'un procès politique pour vous ?
Alors, comme disait Francis, il est bien évident que la gestion des comptes publics au Sénégal, quelles que soient les institutions, que ce soit des mairies ou des ministères, on aurait beaucoup à y redire. Régulièrement, on voit la Cour des comptes sénégalaise dire que un très grand nombre de contrats, par exemple, sont passés hors des cadres légaux de procédure de passation des marchés. Et c'est c'est peut-être 30% des marchés. Enfin, voilà. Donc, je pense que si on veut, on peut facilement trouver à redire à la gestion d'une grande partie des édiles
et donc la lutte contre la corruption peut être utilisée et pourquoi pas peut-être au Sénégal comme une arme politique pour écarter les opposants.
Absolument, oui. Ça n'est d'ailleurs pas une chose nouvelle, hein. La cour qui a condamné Karim Wade, hein, la cour de répression de l'enrichissement illicite, c'était une cour qui avait été créée par Abdou Diouf, qui était devenu président en 1980 à la faveur du retrait de Léopold Sédar Senghor. Et Abdou Diouf avait beaucoup de mal à contrôler l'État et le parti, dont pourtant il était issu. Hein. Et au fond, pour mettre la pression sur tous ses pairs, il a utilisé la CREI hein, pour essayer de mettre de l'ordre. Et Macky Sall a réactivé cette CREI.
Ouais, parce que c'était en sommeil.
Francis Patindé.
C'était en sommeil. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que, je prends l'exemple de Karim Wade, il a perdu tous ses procès au Sénégal. Mais il a gagné tous ses procès hors du Sénégal, à l'international, auprès de la Cour de justice des communautés de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, à Abuja, au Nigeria. Il a gagné pratiquement tous ses procès. Il a gagné à Monaco et il a gagné à Paris. Mais c'est étonnant qu'à l'international, il gagne tous ses procès, mais à l'interne, ils les perdent.
Et alors, s'ils regagnent le prochain, parce que, alors c'est pas un procès, mais Karim Wade et d'ailleurs Khalifa Sall, oui. Ils ont posé un recours justement devant la Cour de justice de la CEDEAO.
Ce sera le 20.
Ça sera le 20.
4 jours du suffrage.
À 4 jours du suffrage, ils espéraient l'un et l'autre que ça serait un petit peu avant et que la requête de justice soit acceptée. Finalement, elle l'a pas acceptée. Donc on aura un résultat le 20 février, sauf si c'est une fois encore repoussé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce recours? Et qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où la Cour de la CEDEAO donne raison à Karim Wade et Khalifa Sall? Quelle légitimité pour un président qui serait élu et avec une Cour de justice de la CEDEAO qui dirait mais il faut réintégrer dans la course ces deux candidats qui ont été injustement écartés, Vincent Fouché? Non, mais cette hypothèse est possible aujourd'hui.
c'est une situation qui ne s'est jamais posée. La Cour de la justice de la CEDEAO est une institution très intéressante qui a souvent pris des décisions audacieuses, qui a condamné des États, hein, le Niger, la Gambie, enfin toute une série d'États ont été condamnés dans des procès desquels on n'attendait en fait pas grand-chose.
Donc c'est pas exclu.
Mais ça n'est pas exclu. Maintenant, c'est vrai que pour la Cour, ce serait quand même se donner
un rôle politique.
Un rôle politique, enfin. Ce serait un peu intrigant, je dois dire.
Mais ce serait un avantage psychologique pour ceux qui ont été écartés.
Alors, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées pour écarter éventuellement des candidats, parce que cette fois, dans le processus de désignation des candidats, il fallait aussi une étape de parrainage citoyen qui était appliquée pour la première fois dans le pays. Il a fait l'objet de nombreuses critiques de la part, évidemment, de l'opposition, mais aussi d'une partie de l'opinion sénégalaise. Qu'est-ce qui posait problème et est-ce que, même question, est-ce que cet outil-là a pu être utilisé pour écarter, une fois encore, des opposants? Vincent Fouché?
Oui.
Vincent Fouché? Allez, on va faire chacun votre tour, de toute façon. Vous aurez la parole.
Non, mais il y a aucun doute qu'il s'agit là d'un outil utilisé à des fins de contrôle. Le parrainage n'est pas nouveau, hein. C'était présent dans dès 1991.
Hein. Pas sous cette forme.
Pas sous cette forme. C'était réservé théoriquement donc aux candidats sans parti politique. Hein. Et il a été transformé en avril 2018 hein, par une loi votée par le Parlement. Et c'est vrai qu'il y a au Sénégal, c'était le cas avec Abdoulaye Wade, c'est aussi, donc on le voit, le cas avec Macky Sall, cette facilité à transformer les constitutions, à bricoler les choses, qui pose quand même problème. Hein. C'est vrai que c'est rarement rassurant quand, un an avant une élection, on se met à changer des dispositions constitutionnelles comme ça. Ça n'est pas un très bon signe des intentions des pouvoirs. Ceci dit, une fois encore, dans la série Parrainage, rappelons-nous l'histoire. En 2012, la candidature de Youssou N'Dour avait été invalidée par la Cour constitutionnelle, hein, alors que c'était cette fois-ci Abdoulaye Wade, le président sortant, là aussi sur des questions de parrainage. Hein, on avait mis en cause, comme il était un candidat indépendant, la qualité des parrainages qu'il avait obtenus.
De façon justifiée?
Alors, je n'ai pas vérifié les 13 000 signatures.
Je crois que Youssou N'Dour, il avait obtenu le nombre de parrainages requis, mais pas la ventilation nationale. Parce qu'il ne faut pas que ce soit tous de Dakar ou de Thiès ou de... Il faut que ce soit ventilé sur au moins 6 ou 7 des régions que compte le Sénégal. Pour revenir au parrainage, je dois à la vérité dire quand même que le parrainage n'a pas contribué à écarter les grosses pointures. Khalifa Sall et Karim Ouad ont obtenu plus qu'il n'en fallait, parce que c'est de grosses structures, c'est de grands partis, et il n'y avait pas de problème. En fait, ça a beaucoup plus contribué à écarter les petits partis, les petits candidats.
Alors, je disais donc 5 candidats, on va donner leur nom. Il y a donc évidemment Macky Sall, le président, il y a Idrissa Seck, peut-être le rival le plus sérieux, qui est d'ailleurs un ancien proche d'Abdoulaye Wade. Il y a Madi Kenyang, lui aussi fidèle d'Abdoulaye Wade, un ancien d'ailleurs de son parti démocratique sénégalais. Il y a Ousmane Sonko, le parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et puis il y a Issa Sall, un ancien du Parti socialiste, hein, donc aujourd'hui chef du parti de l'unité et du rassemblement. Le but de l'opposition, c'est de faire d'ici le 24 février un front anti-Sall. Est-ce que ce front anti-Macky Sall est possible d'ici les élections, Francis Patindé?
Moi, je crois pas, parce que d'abord, personne ne veut se retirer. Il y a eu des rencontres depuis le retour de Wade à Dakar. Il a rencontré Sonko, il est prévu même peut-être qu'il rencontre le président Macky Sall. Mais les gens vont plutôt dans un sens demandant à Wade d'annoncer le retrait de son fils pour que eux, et d'appeler pour eux, notamment à Sonko. Sonko demande à Wade donc d'annoncer son retrait et de reporter ses voix sur lui. Moi, je pense que ce qui est quand même intriguant dans cette affaire sénégalaise, c'est pour la première fois qu'il y a deux grosses structures, deux grands partis qui sont absents du scrutin. Escalité. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas le Parti socialiste. Mais il n'y a pas le Parti démocratique sénégalais, qui est un parti qui a été créé depuis 1974, qui est une grosse structure, qui a toujours animé, d'ailleurs, la preuve, depuis son retour à Dakar, vous avez vu que la campagne s'est animée. Parce que il a beau avoir 93 ans, il aura 93 ans au mois de mai prochain. Wade est un vieux gorgui, comme vous dites. Il draine du monde encore derrière lui, plus sûrement que son fils.
On va venir à cette question de l'absence des grands partis, Vincent Fouché, mais sur cette possibilité ou non de forger d'ici le 24 février un front anti-Macky Sall.
Ça me paraîtrait, je dois dire, assez étonnant. Elle se forgera peut-être après le premier tour. C'est un peu la tradition sénégalaise. On se rassemble.
Mais est-ce qu'il y aura un second tour?
Ouais. Est-ce qu'il y aura un second tour? Et dans l'hypothèse d'ailleurs où elle se forgerait, il n'est pas dit d'ailleurs que ça suffise, pour la raison que vous disiez tout à l'heure, parce que finalement le bilan politique et économique de Macky Sall n'est pas si mauvais. Sur l'absence des grands partis que soulignait Francis Patiné, parce qu'effectivement, dans cette élection, ils ne sont pas là. Le Parti Socialiste, qui est présent à tous les scrutins depuis l'indépendance, depuis 1960, n'est pas représenté, en tout cas pas en tant que tel. Le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, précisément, qui participe à toutes les campagnes depuis 1978, donc depuis 40 ans, il n'est pas représenté non plus. Que vous inspire le fait que, précisément, les grands partis historiques traditionnels soient aujourd'hui absents? Qu'est-ce que ça vous semble révéler, Vincent Fouché, de l'évolution du paysage politique sénégalais?
Ce que j'ai trouvé très frappant, c'est au fond, après la défaite d'Abdou Diouf en 2000 face à Abdoulaye Wade, le Parti Socialiste a quand même décru de manière extrêmement rapide. Et au fond, ce que ça m'inspire, c'est que les partis sont quand même très largement liés à leur leader, à leur personne, et ont du mal à survivre à la défaite de leur leader. Et au fond, le PS est dans un lent déclin depuis lors. Alors voilà, on a eu avec Khalifa Sall quelqu'un qui a voulu reprendre le parti pour essayer de le relancer. Il a été empêché dans ses tentatives de reprise du Parti Socialiste, et il est parti créer sa propre structure. Mais c'est vrai que ça parle quand même, me semble-t-il, de la fragilité du système partisan sénégalais.
Ouais, une défaillance peut-être du côté des structures partitaires sénégalaises qui sont dans l'incapacité de renouveler leur leader.
Mais c'est sûr que lorsqu'on perd à une élection, surtout quand on a occupé la présidence pendant plusieurs décennies, on perd également tout ce qui va avec, c'est-à-dire les moyens financiers, l'administration, les réseaux d'information et tout. Et donc le Parti Socialiste, effectivement, mais on observe la même chose en France. Depuis la défaite de François Hollande, enfin François Hollande ne s'est pas présenté, mais je dis, le PS avait un candidat, mais malheureusement, depuis, le PS est ramené à une portion congrue.
Et alors, est-ce que justement les autres candidats qui sont hors de ces grands partis pourraient en profiter? Parce qu'effectivement, il y a des visages, pour le coup, des candidats qu'on connaissait quasiment pas. Ousmane Sonko, que j'ai évoqué, ou même Issa Sall, c'était des quasi-inconnus il y a encore quelques mois dans le paysage politique sénégalais. Est-ce qu'ils pourraient profiter précisément de cette défaillance des partis sénégalais? Ils se présentent, disons-le, comme des candidats anti-système. Est-ce que ça pourrait marcher pour eux? Alors, peut-être pas pour cette fois, mais peut-être pour la fois d'après, Vincent Fouché. Alors,
les candidats anti-système peuvent obtenir des résultats très surprenants, très rapidement, notamment dans les villes, hein, notamment dans la jeunesse, chez les gens qui sont éduqués, politisés. Mais il y a quand même, le Sénégal, c'est quand même un pays encore à majorité rurale, et ces gens-là, on ne les mobilise pas avec des discours à la radio, c'est autre chose, c'est un autre travail. Hein, et au fond, la victoire de Macky Sall en 2012, elle s'explique non seulement par la capacité, il a su au fond prendre le drapeau de « je suis le seul véritable adversaire de Wade », mais il a aussi fait un travail dans le monde rural, hein, de présence à travers tout le territoire, qui était lié au fait qu'il avait été Premier ministre pendant des années, et donc qu'il avait un réseau, qu'il avait plus ou moins mis en place ou contribué à la consolidation du PDS, donc il connaissait aussi très bien la machine partisane de Wade. Il avait comme ça des réseaux sociaux extrêmement puissants, hein, et qui ont été un facteur décisif. Donc je dois dire, pour ma part, je serais très surpris si c'est candidat de la rupture. Et il y en avait aussi en 2012 déjà, hein, des figures comme ça, Ibrahima Fall par exemple, hein, un ancien haut fonctionnaire international. Bon, c'est des gens qui peuvent très bien marcher par exemple dans la diaspora à New York ou au Canada, chez les intellectuels, ou même à Dakar, mais qui, à Tambacounda, à Sédiou, à Ziguinchor, à Louga, vont pas être capables de mobiliser des gens.
Je pense qu'il y a une percée qui est intéressante, c'est celle de Sonko. Mm-hmm. On en parle beaucoup. Il a fait une assez bonne campagne avec très peu de moyens, une campagne jeune, moderne, mais il présente aussi des zones d'ombre. Parce que c'est quelqu'un qui, par rapport à la religion, par rapport à la femme et tout, tout n'est pas clair, tout n'a pas été dit à ce niveau-là. Et je pense également que même si il y a un grand réservoir au Sénégal en zone rurale, il y a un énorme potentiel dans la banlieue. À Pikine, à Guédiawaye, autour de Dakar, c'est plusieurs millions de personnes qui votent.
Et il pourrait suivre un homme comme Ousmane Sonko?
Moi, je pense qu'il pourrait suivre. Il faudra suivre de très, très, très près la campagne d'Ousmane Sonko. Contrairement à Idrissa Seck, qui a son réservoir à Thiès, qui est, c'est vrai, un ancien premier ministre et tout. Mais je pense que Sonko pourrait se retrouver dans le rôle de Chalandière.
Qu'est-ce qui séduit dans Ousmane Sonko? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être définir son projet pour le Sénégal?
Alors, on peut partir peut-être de ça, la manière dont elle a émergé dans l'espace public. Hein. Il est inspecteur des finances et il est entré dans le débat sénégalais en critiquant la gestion de la dépense publique par Macky Sall. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un thème, hein, la corruption des élites, c'est un thème qui marche. C'est un thème que le pouvoir peut utiliser, c'est aussi un thème que l'opposition peut utiliser. C'est clair que ce discours-là est un discours qui fonctionne bien.
Ouais. Et c'est vrai aussi qu'il sait de quoi il parle. Quand il parle de corruption, parce qu'il était dans le cœur de l'administration, il a des chiffres, il a des faits précis, il a fait une campagne non agressive et qui a plu aux jeunes, il a fait une campagne sur les réseaux sociaux, ça c'est très très important aujourd'hui, et c'est pas quelqu'un qui est excité, il fait poser, et je pense qu'il a de l'avenir, il faudra juste qu'il lève le voile d'opacité sur deux ou trois questions de société.
On va peut-être justement parler des réseaux sociaux, mais on va basculer doucement du côté du Nigeria, puisque le 16 février se tiendront des élections générales, présidentielles et législatives. Le président sortant, Mamadou Buhari, est en lice pour un deuxième mandat. Buhari, il faut le rappeler, est un général qui s'était fait élire en 2015 après un premier passage au pouvoir dans les années 80 sur la promesse de ramener l'ordre dans le pays, d'éradiquer Boko Haram. Son principal rival, c'est Atiku Abubakar, vice-président d'un ancien chef de l'État, un riche homme d'affaires aussi par ailleurs. D'abord, avant d'évoquer le Nigeria, je vous propose d'écouter, vous parliez des réseaux sociaux, je vous propose d'écouter justement l'actuel président, Mouhamadou Buhari, qui il y a quelques jours tenait à rappeler que non, il n'est pas mort.
Il y a une question très importante dont je voudrais parler. Certaines rumeurs ont circulé. Certaines ont suggéré que j'avais été cloné. Beaucoup de gens espéraient que je mourrais pendant ma maladie l'année dernière. Certains ont même tendu la main au vice-président, Yemi Osinbajo, le considérant comme leur interlocuteur, parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Ce qui l'a probablement beaucoup embarrassé lorsqu'il est venu me rendre visite à Londres durant mon hospitalisation. Mais c'est vraiment moi, je ne suis pas un clone, je vous assure.
Je ne suis pas un clone, voilà ce qu'a juré le président nigérian Mouhamadou Buhari. Il a voulu répondre aux rumeurs qui le voyaient déjà mort. Alors, ça peut sembler drôle à première vue, effectivement, mais il y avait eu des thèses un peu folles qui le voyaient mort. Les réseaux sociaux, qui ont proliféré assez largement, bien sûr, sur les réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux, et la démocratisation du smartphone en général, c'est devenu un outil particulièrement efficace pour faire de la désinformation, pour faire de la fake news, et en particulier dans des environnements comme le Nigeria qu'on évoque maintenant, où 60% des gens ne sont pas alphabétisés et qu'ils n'ont pas véritablement moyen de vérifier les informations, c'est devenu un outil particulièrement efficace pour discréditer ses opposants, ses rivaux, Francis Patindé et puis Vincent Fouché.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est tout cela est dit sous le ton de l'humour. Enfin, les réseaux sociaux et la téléphonie cellulaire ont contribué à renforcer la liberté en Afrique. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre côté, c'est que c'est devenu des instruments dangereux, surtout par le réseau qu'on s'appelle WhatsApp. Et beaucoup de gens sont sur WhatsApp et diffusent de fausses nouvelles. Et les populations, à défaut de pouvoir changer les pouvoirs par les urnes, à défaut d'avoir un recours à un militaire valeureux qui les débarrasserait de certains potentats, mais ils en viennent eux-mêmes à tuer leur chef d'État par ces réseaux. Ce qui explique que Buhari, qui est malade, et c'est de notoriété publique, mais les gens le tuent de temps en temps, tous les 6 mois, on le tue. De façon symbolique, c'est vrai, mais on tue également Rawlings, qui a quitté le pouvoir depuis plusieurs années, un ancien président du Ghana. On a tué plein de choses. Biya, le président actuel du Cameroun, le président Bongo, qui a eu un AVC et qui est en séjour actuellement au Maroc, mais il a été tué à plusieurs reprises. C'est l'arme du pauvre contre les potentats.
Vincent Fouché, l'arme du pauvre contre les potentats, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui produisent énormément de désinformation.
Alors c'est nouveau et pas nouveau. Comme le disait Francis Patindé, au fond c'est aussi un héritage des régimes autoritaires dans lesquels il n'y avait pas d'espace public et où le seul espace public c'était radio-trottoir, c'était les petites rumeurs, c'était ces manières de défier ou même de formes de libération dans l'imaginaire. Hein. On aimerait bien que ce soit ça, évidemment c'est pas ça. Mais au fond on va mettre en circulation des nouvelles comme ça qui au fond qu'on portait un message de critique à l'égard du pouvoir, parce que c'est le seul relais qu'on a.
Mais est-ce qu'il peut
alors,
être utile?
C'est ça, c'est cette tradition-là. Et puis, c'est effectivement cette technologie absolument incroyable, hein, WhatsApp notamment, qui joue un rôle phénoménal. Et toute cette articulation, non seulement à des messages, mais aussi à des vidéos, à des sons. Au Nigeria, il y a une circulation comme ça d'enregistrements supposés de tel politicien en train de dire qu'il va faire tuer telle personne. Enfin, ça n'arrête pas. C'est une prolifération comme ça, avec quelque chose de l'ordre de la preuve aussi. Hein. C'est ça aussi. C'est, au fond, c'est evidence-based, quoi, hein, ou de preuves supposées. Et qui stimule l'imagination politique et les désirs politiques.
Mais est-ce que ça peut être utilisé aussi, instrumentalisé par les candidats eux-mêmes, par les hommes au pouvoir? Vous disiez finalement c'est la seule arme qui reste à l'opinion, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé, instrumentalisé par les candidats eux-mêmes?
Absolument.
Par les régimes.
Et y compris par le régime. Parce
qu'il y a des exemples.
Il y a des officines qui fabriquent des fake news. En Afrique aujourd'hui, moi je vois au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les officines, il y a des gens qui fabriquent. Vous savez, et la plupart des candidats recrutent des jeunes qui sont férus de ces technologies et tout, qui fabriquent, qui se battent. Il y a toujours au fond de vrai, de vérité. Ça part d'un élément factuel, vérifié, et puis on construit quelque chose là-dessus. Le pouvoir le fait, mais également les opposants. Les opposants tuent. Enfin, symboliquement, celui qui ne peut pas, celui dont il peut pas se débarrasser, mais le pouvoir aussi peut. Récemment, il y a des opposants qui ont monté un truc du président Alpha Condé dans un état de beuverie avancée, alors qu'en fait, il marchait, il était en pays peul, donc il pouvait pas boire devant les dignitaires peul qui sont très très rigoristes hein, en matière d'islam, mais comme il flotte, il a des problèmes pour marcher, donc ça a été remonté comme s'il était dans un état de
d'ébriété.
D'ébriété.
Vincent Fouché, l'usine à trolls n'est pas une spécificité russe, si je comprends bien.
Alors oui, mais ça n'est pas non plus, y compris en Afrique, uniquement des acteurs africains qui y participent. Hein. En 2015, lors des élections au Nigeria, qui ont vu la victoire de Buhari contre le président sortant Goodluck Jonathan, Cambridge Analytica était impliqué. Et il y a eu des vidéos, notamment...
La même entreprise que celle qui était impliquée dans l'ingérence russe dans la campagne américaine, entre parenthèses, pour ceux qui auraient oublié.
Merci de recadrer. et donc, c'est cette entreprise-là, Cambridge Analytica, qui apparemment a été impliquée. Ils auraient apparemment employé des hackers de Blackcube, une société aussi également célèbre pour son implication dans la défense de Harvey Weinstein, pour essayer de trouver des saletés à dire sur Buhari. Et une vidéo avait été fabriquée qui disait en gros que Buhari était en ligue avec les djihadistes de Boko Haram, qu'il allait islamiser le pays, etc. C'est d'ailleurs encore ce même thème aujourd'hui au Nigeria, hein, que dans les médias liés ou les partisans liés à Atiku Abubakar, le challenger, on utilise, hein, on dit au fond, Buhari, il va islamiser le pays, attention, mobilisez-vous.
Mais quel état était derrière la construction de cette thèse?
C'était apparemment, d'après les investigations du, je crois que c'était le Guardian qui avait sorti cette affaire, un milliardaire nigérian proche de Goodluck Jonathan, qui avait sollicité Cambridge Analytica pour son intervention.
Francis Platinet.
Mais c'est vrai, il y a également des phénomènes, c'est par exemple l'homosexualité, vous savez, les populations, les opinions sont rétives à l'homosexualité. Il y a eu quand même des petites choses qui sont sorties récemment sur Karim Ouad, par exemple, en disant qu'il était homosexuel au Sénégal. C'est vrai qu'on ne peut pas désigner le coupable comme le président sortant Macky Sall, mais vous avez dans votre entourage, vous avez de tout. Des gens bien, mais également un milieu interlope qui gravite autour du président sortant, qui peut fabriquer. Et ça fait mouche, parce que si vous portiez à la connaissance de l'opinion qu'un des candidats potentiels, celui qui va diriger la présidence après Senghor, après Ouad et tout ça, est un homosexuel, ça, vous avez des problèmes.
Ça discrédite, évidemment.
Ça discrédite.
Vincent Fouché, si on regarde du côté du Nigeria, pour cette élection présidentielle, on disait tout à l'heure pour le Sénégal, 5 candidats, pour cette élection-là au Nigeria, 70 candidats en lice. Alors, est-ce que cette profusion de candidats suffit pour dire que ce scrutin va respecter tous les standards démocratiques?
Non, bien évidemment. Maintenant, les élections nigérianes, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. On s'inquiète énormément, il y a une grosse panique. Et de fait, hein, il y a eu des incidents violents, il y a eu des morts. Et là, pas seulement un comme au Sénégal, mais plusieurs déjà. Il y a des controverses. Il y a une controverse en ce moment en cours, puisque le président Buhari a congédié le président de la Cour suprême.
Alors que normalement, c'est le plus haut magistrat du pays, on ne peut le limoger qu'avec les deux tiers, je crois, du Parlement, ce qui n'a pas été le cas.
Exactement. Donc ça, évidemment, ça pose un problème. Ceci dit, les élections de 2015, par exemple, elles s'étaient plutôt bien passées et les résultats avaient semblé plutôt crédibles. Donc on a souvent des surprises au Nigeria.
Francis Patindé.
Oui, le Nigeria, il faut dire que depuis Sani Abacha, la mort de Sani Abacha en juillet 1998, il n'y a pas eu de bruit de botte dans les casernes au Nigeria. C'était un pays qui était coutumier de coups d'État, de putsch et tout. Il n'y a pas eu, il y a la question de Boko Haram, ça c'est vrai. Il y a des problèmes dans le Delta, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. C'est déjà appréciable. C'est appréciable. Il y a eu quand même une alternance récemment au Nigeria avec la défaite de Goodluck Jonathan dont on parlait tout à l'heure. Donc je pense que c'est une bonne chose. Alors maintenant, la profusion des candidats, ça s'apprécie de différentes manières. Soit c'est vraiment une vitalité, un signe de vitalité démocratique. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens, après, à des moments, il y avait pratiquement qu'un seul candidat dans beaucoup de pays africains. Qu'il y en ait, vous savez, il y en a eu 36 à Madagascar il y a quelques semaines, au mois de décembre. Il y a eu 33 au Bénin. Donc, on note depuis quelques années, depuis les années 80, une profusion de candidatures. Et ça, c'est le bouquet, c'est avec le Nigeria.
On parlait tout à l'heure de la question de la lutte contre la corruption, on disait combien ça pouvait être utilisé dans les campagnes. Il se trouve que Atiku Abubakar, il est soupçonné lui de corruption, de nombreuses, très nombreuses malversations, il est soupçonné d'avoir en gros profité de son statut de vice-président pour faire fructifier ses affaires. On a par exemple aux États-Unis un rapport parlementaire qui était sorti il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 pour mémoire, mais je suis pas sûr, qui explique que Atiku Abubakar aurait rapatrié des dizaines de millions de dollars aux États-Unis via des comptes offshore. Il se trouve que l'actuel président, Muhammadu Buhari, il s'est fait la figure de proue de la lutte contre la corruption. Alors, deux questions. Est-ce qu'il utilise précisément cet argument-là pour discréditer son opposant, qui est son opposant principal? Et s'il le fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Puisque pour le moment, il a l'air d'être tout à fait en position de s'imposer lui aussi. Alors, Vincent Bouchet.
Alors, effectivement, Buhari, d'abord, il avait cette image de l'époque où il était chef d'État militaire. Il avait cette image comme ça d'homme incorruptible.
Et austère.
Il avait mené des campagnes de fait assez vives dans des affaires de corruption assez spectaculaires. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, effectivement, il a lancé toute une série d'enquêtes, ou fait lancer toute une série d'enquêtes, plutôt sur le régime précédent. Évidemment, c'est difficile de ne pas y voir une manière de rappeler à l'ordre, d'obliger toute une série de gens qui étaient ses adversaires à transiger, à rallier son camp, ou une manière d'intimider, une manière de renforcer son pouvoir.
Mais
Abdoulaye Wade avait fait d'ailleurs la même chose à son élection en 2000. Il avait été extrêmement actif au niveau de la corruption et il avait finalement fini par réincorporer toute une partie des gens qu'il avait au début menacé de poursuite ou qu'il avait fait poursuivre au début.
Et est-ce qu'il attaque son rival sur ce plan-là, sur le plan de la corruption?
Alors, Buhari lui-même est assez peu agressif. Mais il est bien évident que ses partisans sont extrêmement vifs là-dessus et il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le fait que, par exemple, effectivement, Atiku n'aurait pas le droit de rentrer aux États-Unis parce qu'il y serait arrêté. Ça fait partie du jeu politique des deux côtés.
Ceci dit, il s'y est rendu il y a quelques semaines. Justement pour tordre le cou à la rumeur. Francis Patindé.
Je pense que l'argument ne porte pas. Pourquoi? Parce que l'opinion est persuadée, à tort ou à raison, que les principaux candidats sont tous corrompus. Vous savez, pour arriver à ce niveau au Nigeria, il faut avoir, comme dirait Fela Anikulapo Kuti, l'ancien, le roi, le pape de l'Afrobeat, ils sont tous corrompus. C'est Atiku, comme Buhari, comme même Obasanjo, qu'on présente aujourd'hui comme une icône et qu'on montre un peu partout dans le monde dans la lutte contre la corruption et pour les droits de l'homme et pour les élections justes et équitables. L'opinion est persuadée que les ténors de la vie politique sont corrompus.
Mais puisqu'ils sont tous corrompus, Francis Patindé, là, les deux candidats qui sont a priori les deux favoris pour ce scrutin, ils sont précisément les représentants. On disait tout à l'heure qu'au Sénégal, les deux partis historiques traditionnels avaient été éjectés. Là, c'est tout à fait l'inverse. Les deux grands partis sont bien représentés. Alors, comment l'expliquer? Compte tenu de l'environnement que vous décrivez, avec une corruption extrêmement forte, avec tous les problèmes d'insécurité, avec une redistribution des richesses toutes relatives, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au Nigeria un grand mouvement de dégagisme?
C'est un vrai système de tout parti système. Comme aux États-Unis, il est difficile pour quelqu'un qui arrive un nouveau, qui n'a pas un réseau de télévision, de radio et tout, qui n'a pas la fortune, qui n'a pas de l'argent. Il est difficile dans un pays où vous avez près de 80 millions d'électeurs, un pays de presque de 200 millions d'habitants. On ne peut pas être pauvre, on ne peut pas émerger comme Sonko et essayer de sillonner le pays et percer. Ça est difficile au Nigeria.
Vincent Fouché, pourquoi pas de dégagisme au Nigeria?
Alors, c'est la particularité du Nigeria. D'abord, c'est un pays pétrolier et puis c'est un pays fédéral. Et donc, ça veut dire qu'on a, dans cet appareil d'État, des gouverneurs élus qui appartiennent à l'opposition, qui, à cause du pétrole, ces gouverneurs, notamment dans les zones pétrolières, peuvent contrôler énormément de ressources, mais énormément. Mais c'est le cas aussi des gouverneurs dans les zones non pétrolières, hein, qui touchent aussi une partie de l'argent du pétrole. Et donc, on a des jeux extrêmement complexes où les gens sont dans des allers-retours permanents. Atiku, il était avec Buhari à la PC avant. Et puis là, maintenant, il est au PDP. Enfin, et on a des gens comme ça qui ont fait des allers-retours 3-4 fois. Selon, à tel moment, le président, il engage une campagne sur la corruption qui m'embête, ou il veut nommer tel gars qu'il aime bien à la tête de telle commission. Et donc, ça m'embête. Donc, je passe à l'opposition. On est dans un jeu comme ça qui se joue entre ce qu'on appelle des big men au Nigeria, ou des godfathers, des parrains, ou des gros monsieur, quoi. Et d'ailleurs, on voit aussi, au Nigeria, il y a un volume des hommes politiques, pas Buhari en l'occurrence, mais il y a quand même les gens, c'est des sacrés carrures, c'est des vrais big men au sens propre du terme, et c'est pas totalement par hasard, me semble-t-il, ça dit quelque chose aussi de ce dont il s'agit.
C'est vrai qu'il y a ce phénomène de transhumance politique, mais c'est également vrai au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours, qui quittent le PS pour aller au PDS, qui requittent le PDS comme actuellement, qui jouent en solo ou bien qui sont manipulés par le président Macky Sall pour se présenter, pour émietter les voix et faire et donner l'impression que c'est un jeu démocratique.
Alors on va faire notre propre transhumance aussi, on va quitter le Sénégal et le Nigeria pour prendre la direction de la RDC. Pendant des semaines, des mois même, l'actualité africaine a été largement occupée par l'élection présidentielle qui s'est tenue en RDC. Après deux années passées à repousser le scrutin alors qu'il était arrivé au terme de son mandat, Joseph Kabila avait fini par en accepter l'organisation. Il s'est finalement tenu en décembre dernier avec trois principaux candidats, le successeur désigné de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, et puis deux opposants principaux, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Alors que la plupart des observateurs attendaient une victoire du dauphin de Kabila, c'est finalement Félix Tshisekedi qui l'a emporté devant Martin Fayoulou, qui a immédiatement crié à la fraude électorale. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste correspondante à Kinshasa pour RFI. Après le résultat et l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi, la plupart des observateurs ont laissé entendre qu'il y avait eu une forme d'arrangement, d'entente entre le régime Kabila et l'opposant Tshisekedi. Il y avait eu plusieurs signes d'apaisement, c'est vrai, qui pouvaient laisser penser que Tshisekedi n'était plus autant en opposition avec le régime que par le passé. Qu'en est-il aujourd'hui de cet arrangement supposé? Est-ce qu'il s'est confirmé?
Alors, il n'y a pas de preuve d'un deal qui a été passé avant les élections, en tout cas avec entre le clan Kabila, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, évidemment, il y a des discussions pour un partage de la gouvernance. Nos confrères de l'AFP ont même rendu public un deal, un accord de partage de pouvoir qui donne un certain nombre de ministères à Félix Tshisekedi. Mais qui cet accord que certains ont pu consulter a été signé après l'élection. Donc c'est deux choses différentes d'avoir un deal avant et après et après l'élection. Des sources diplomatiques affirment que peut-être un moment clé ça a été l'accord de Genève. À Genève en fin d'année dernière, les principaux candidats d'opposition s'étaient réunis pour se mettre d'accord sur un candidat commun. À la surprise générale, c'est pas Félix Tshisekedi qui avait été désigné, mais Martin Fayoulou. Et dans la foulée, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont désolidarisés de cet accord pour maintenir une candidature de Félix Tshisekedi. Est-ce que cette candidature a été suscitée par le pouvoir congolais? Certains le pensent, mais on n'a pas de preuves.
Oui, il n'y a pas de preuves. A posteriori, Florence Maurice, évidemment, c'est toujours plus facile, mais on peut se dire que Emmanuel Ramazani Shadary n'apparaissait peut-être pas comme le choix le plus judicieux. D'abord, c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui avait été au cœur de répressions sanglantes lors de plusieurs manifestations. Il jouissait, disons-le, d'une assez mauvaise image dans l'opinion congolaise. pas très bonne non plus à l'international, notamment auprès de l'Union européenne qui avait décidé des sanctions à son encontre. Par ailleurs, on peut pas vraiment dire non plus que Joseph Kabila se soit beaucoup investi dans sa campagne pour le soutenir. Est-ce qu'il n'y avait pas meilleur candidat pour succéder à Kabila? Et est-ce qu'on peut postuler l'hypothèse que finalement, Kabila l'a choisi en sachant très bien qu'il allait perdre?
Alors, bon, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tout cas, c'était un candidat paradoxal. Évidemment, c'était un candidat qui n'avait pas beaucoup d'envergure, qui n'a pas été soutenu dès le départ, même si il faisait semblant, qui n'a pas été soutenu au sein du Front commun, la coalition du président Kabila. D'abord parce qu'il y a beaucoup de ténors dans l'entourage du président Kabila qui briguait ce poste. Moi, je ne crois pas que le scénario auquel on a assisté était entièrement ficelé d'avance. On sait que jusqu'au bout, au sein du clan Kabila, certains ont plaidé pour que, même si son score était très mauvais, sa victoire soit imposée. Et ce serait Joseph Kabila lui-même qui, en dernière instance, aurait décidé que non, que c'était un choix trop risqué que de l'imposer. Il avait les défauts de ses qualités, ce candidat. Voilà, on était dans un scénario où on mettait à la place du président Kabila un candidat avec peu d'envergure, qui promettait d'être fidèle et de ne pas menacer les intérêts du clan pour éviter le scénario angolais.
Alors, je vais poser la question d'une autre manière. Est-ce qu'il avait ficelé, en revanche, le processus par lequel c'est Tshisekedi, finalement, qui l'emportait? Parce qu'avant l'élection, il y a des opposants qui ont été écartés, là, pour le coup. La commission électorale a invalidé un certain nombre de candidatures. Je pense à Jean-Pierre Bemba, je pense également à Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce qu'ils ont été écartés, eux, et pourquoi Tshisekedi, lui, aurait été autorisé à concourir? Est-ce qu'il n'y avait pas là aussi, alors voilà, peut-être que c'est une vision un peu complotiste des choses, vous allez me le dire, mais est-ce qu'il n'avait pas prévu le coup d'avance, Florence Maurice?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ceux qui apparaissaient il y a 6 mois comme les deux candidats les plus menaçants, dont vous venez de donner le nom, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ont été écartés par la Cour constitutionnelle. Bon, officiellement, il y a des raisons. Hein. Moïse Katumbi a été condamné dans une affaire de spoliation immobilière. S'il rentrait pour déposer sa candidature, il risquait d'être arrêté. Jean-Pierre Bemba, lui, a été invalidé du fait de sa condamnation pour subornation de témoins à la Cour pénale, qui a été assimilé à de la corruption, qui l'empêchait de se présenter. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi ces deux candidats étaient menaçants, effectivement, et plus menaçants que Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba avaient présenté le risque d'avoir des leviers importants du pouvoir. Moïse Katumbi a une puissance financière importante. On pensait d'ailleurs que c'était le seul qui pouvait avoir véritablement les moyens de mener une campagne à la hauteur de celle déployée par le candidat du pouvoir. Jean-Pierre Bemba, lui, a des réseaux très importants hérités dans l'armée. Et c'est peut-être là que Félix Tshisekedi est intéressant et c'est toute la difficulté de sa position actuellement. C'est que lui n'a pas de réseau particulier dans l'armée. Lui, son parti était quand même assez affaibli financièrement. Et finalement, ce sont les deux leviers qui permettent aujourd'hui à un président de pouvoir changer la donne, surtout dans un scénario ou de cohabitation ou de coalition, puisqu'il faut quand même dire que Félix Tshisekedi remporte la présidence, mais que, et c'est là le point important, le reste de l'exécutif reste aux mains du législatif et reste aux mains du pouvoir sortant, puisqu'ils ont, et c'est assez étrange, puisque les résultats de l'élection présidentielle sont inversement proportionnels à ceux des élections provinciales et législative, et donc le clan Kabila conserve les gouvernorats, conserve l'Assemblée nationale, et ça représente des leviers de pouvoir importants.
Oui, donc vous le dites pas directement, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, Joseph Kabila va continuer de jouer un rôle politique. Par ailleurs, vous dites, si Tshisekedi, il a pas de réseau dans l'armée, il a pas de soutien financier, tout cela, précisément, Joseph Kabila a. Donc il va falloir, d'une certaine manière, je sais pas sous quelle forme, mais intégrer Kabila au paysage politique. Il va falloir créer un tandem, je sais pas comment ça va se passer, mais...
Il ne s'en cache pas. Bon, on s'oriente vers une coalition. Les discussions sont très longues. Donc, très probablement, il y aura une coalition au sein de l'Assemblée intégrant à la fois des gens issus de la coalition de Félix Tshisekedi et de celle du président Kabila. Et il ne s'en cache pas. Il dit, il envoie aussi des messages pour rassurer le clan sortant. Il dit, on va gouverner ensemble. On ne va pas faire de chasse aux sorcières. Le Premier ministre ne sera pas issu de ses rangs. Ce qu'on explique dans
son entourage, c'est que, ce qu'espère, je pense, une partie de l'opinion congolaise, c'est que sur le long terme, dans un pays comme le Congo, le pouvoir attirant le pouvoir, petit à petit, le nouveau président Tshisekedi va réussir à rallier les uns les autres, à faire changer les choses. Mais pour le moment, on est vraiment dans une période d'attente et d'incertitude.
Mais c'est
et
encore trop
on
court.
Attend,
c'est
les gens attendent des signaux forts de ce côté-là.
Oui, c'est encore trop court. Toute dernière question, Florence Maurice, on arrive presque au terme de cette émission, mais Martin Fayoulou, le grand perdant, je disais, qui a appelé à la fraude électorale, qui a crié à la fraude électorale, il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour réclamer la vérité des urnes. Est-ce qu'il a une moindre chance d'être entendu?
Bon, c'est un processus extrêmement long. Je pense que ce qui vient de se passer à l'Union africaine répond à cette question. Cette réunion à l'Union africaine a vraiment été l'occasion pour Félix Tshisekedi de on va dire se légitimer auprès de ses pairs et au niveau de la communauté internationale. Il a eu des tête-à-tête avec énormément de chefs d'État, y compris ceux qui avaient été les plus virulents pour critiquer la légalité de son élection. Il a même obtenu un poste important au sein du bureau de l'Union africaine. Et dans le même temps, Martin Fayoulou a tenté un dernier recours. Il a écrit aux chefs d'État en leur demandant de se pencher sur les résultats de l'élection, et cet appel n'a pas été entendu. On voit bien que le choix a été fait de se satisfaire de cette transition pacifique, puisqu'il ne faut pas oublier que la principale crainte d'énormément d'observateurs, c'était un débordement de violence en RDC.
Qui n'a pas eu lieu.
Je crois que le fait qu'il n'ait pas eu lieu, donne des arguments à chacun pour aller de l'avant, comme disent beaucoup les diplomates actuellement, et regarder ce qui va se passer. Et
évidemment, on peut tous s'en réjouir. Vincent Fouché, Francis Patindé, toute dernière réaction en guise de conclusion. Vincent Fouché.
Peut-être pour dire deux choses. D'abord pour signaler qu'il y a un fact-checking africain qui se développe et c'est une très bonne chose. Et au fond, c'est aussi le moment où on s'engage dans les vrais débats démocratiques. On commence vraiment à parler des faits, hein, de qui a fait quoi, de quelle est la règle, de quelle est la norme. Et ça, c'est plutôt rassurant. D'une certaine manière, on commence enfin à toucher le dur.
Francis Patindé.
Je pense qu'on va, en dépit des couacs et tout, on va dans le bon sens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays africains, il n'y a pas que les pays précarés francophones ou autre chose, il y a plein de pays où on vote, ça se passe dans le calme. Où les gens au Cap-Vert, à Maurice, même à Madagascar récemment, il y a des choses qui se passent où les gens votent, il y a des alternances à la tête des États, on en parle très peu. Et pas que des changements de visage. Il y a eu des alternances au Libéria, en Sierra Leone. Personne n'en parle. Donc, il y a quand même des signes comme quoi...
Il y a des bonnes nouvelles. Et on en parle. On essaye d'en parler. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Florence Maurice qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondante à Kinshasa pour RFI. Et un grand merci à nos deux invités ici en plateau qui nous ont éclairés sur ce paysage politique sénégalais et nigérien. L'un et l'autre vont bientôt être invités à se rendre aux urnes. Vincent Fouché, je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS. Un grand merci également à vous, Francis Patindé, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes journaliste et maître de conférence à Sciences Po Paris. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous arrivez avec une citation. La seule chose dont nous pouvons avoir peur, c'est de la peur elle-même.
Eh oui, on se souvient de cette sentence fameuse prononcée par le président Franklin Roosevelt lors de son discours inaugural en 1932. C'était un appel à l'audace. Une audace requise par le caractère désespérant de la situation. Frappait alors aux États-Unis une crise économique et sociale d'une telle violence que nous ne pouvons nous en faire aujourd'hui qu'une assez vague idée. Eh bien, c'est de l'absence d'un tel courage, d'une semblable hardiesse, que nous crevons aujourd'hui d'après le sociologue Frank Furedi. Furedi, né hongrois, est devenu l'une des figures de la vie intellectuelle britannique. Il vient de publier un livre intitulé « How Fear Works, Culture of Fear in the 21st Century ». Comment fonctionne la peur, la culture de la peur au XXIe siècle. Furedi relatait récemment un fait divers, à ses yeux très révélateur de cette fameuse « culture de la peur ». Dans le Surrey, un groupe d'agents de police assiste à un grave accident. Une camionnette, après avoir dérapé, tombe dans la Tamise. Premier réflexe des policiers, tomber leur veste d'uniforme pour aller au secours du malheureux conducteur. Leur chef, un inspecteur nommé Gary Cross, le leur interdit. « Vous n'avez pas reçu l'entraînement nécessaire pour ce genre d'intervention dans le cadre de vos fonctions », explique-t-il. Quelle étrange société sont devenues les nôtres pour qu'il soit interdit à des agents de police de céder à l'impulsion spontanée qui pousse tout être humain à se jeter au secours d'un semblable en train de se noyer, s'il n'a pas reçu un entraînement spécial certifié par un document officiel. L'esprit de courage, écrit Franck Fouredi, est miné par la notion de gestion de risque. C'est la peur du risque qui nous paralyse, la leçon de Roosevelt s'est perdue. Autre exemple donné par Fouredi, lors de l'attentat islamiste du 22 mai 2017 à l'Arena de Manchester, qui a fait, rappelons-le, 23 morts et 116 blessés, les pompiers sont arrivés sur les lieux avec 2 heures de retard afin de respecter leurs procédures de sécurité. Mais si les forces dont la mission est précisément de protéger les citoyens sont elles-mêmes tétanisées par des protocoles saugrenus et des précautions handicapantes, comment s'attendre à ce que le public, lui, fasse preuve de civisme et de courage? L'obsession de la sécurité, en langage de technocrate, la fameuse gestion du risque, est devenue l'une des pathologies de notre époque. Paralysés par des anxiétés de toutes sortes, nous n'osons plus oser. Une sorte d'apocalypticisme, un néologisme forgé par Gavin Jacobson, affaiblit nos sociétés. Curieuse évolution de l'esprit du temps, dira-t-on. En moins d'un quart de siècle, les Occidentaux, si versatiles, sont passés de l'arrogance « notre modèle de société est tellement abouti qu'il va s'imposer au reste de l'humanité » à un catastrophisme tout aussi irrationnel. Et du coup, l'optimisme progressiste hérité de nos Lumières a cédé la place à une fascination de la catastrophe que nourrit en particulier une forme d'écologisme apocalyptique. Ceux qui prétendent qu'il est déjà trop tard pour que la planète demeure habitable dans l'avenir entretiennent un sentiment d'impuissance et de paralysie. En outre, ajoute Fouredi, cette culture de la peur cherche à culpabiliser les gens pour mieux les assujettir. Se drapant dans l'autorité de la science et sur le mode vertueux du bien et du mal, les autorités multiplient les interdits.
Et c'est précisément contre ce pessimisme, facteur de paralysie, qu'écrit Steven Pinker, le professeur de psychologie star de Harvard.
Oui, j'avais déjà parlé ici de son livre « Enlightenment Now » bien avant qu'il ne soit traduit en français. Eh bien, c'est chose faite grâce aux éditions des Arènes, sous le titre « Le triomphe des Lumières » et sous-titre « Pourquoi il faut défendre la raison, la science et l'humanisme ? » Énorme best-seller aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, mérite de le devenir en France, pays ravagé plus que d'autres sans doute par le catastrophisme et la peur de la peur. Pinker avait pris l'habitude de commencer ses conférences en distribuant à leurs participants des questionnaires comportant 3 réponses possibles. Exemple de ces questions. À combien estimez-vous l'évolution du nombre de morts survenues chaque année du fait de désastres naturels au cours des 100 dernières années? Réponse A, elles ont plus que doublé. B, leur nombre est demeuré globalement stable. C, une baisse d'environ la moitié. Autre question, à quel pourcentage estimez-vous le nombre d'enfants vaccinés contre les principales maladies dans le monde entier? A, 20%. B, 50%. C, 80%. Enfin, une autre question, au cours des 20 dernières années, diriez-vous que la proportion des personnes vivant dans une situation d'extrême pauvreté dans le monde a presque doublé? B, est restée à peu près stable? C, a été réduite de moitié? Eh bien, dans tous les cas, c'est la réponse C qui est la bonne. Mais les résultats récoltés par Pinker étaient chaque fois plus éloignés de la vérité que si les gens avaient répondu au hasard. Pourquoi ce pessimisme? On en reparle demain.
Bon, bah rendez-vous demain alors pour en savoir plus sur ce pessimisme qui se généralise. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.